Radio Commons, des séries de podcasts collaboratifs, d'échanges, de partage et de coopération pour explorer le présent européen.
Vous écoutez Il Limone Lunare, un podcast en deux chapitres qui circule autour de l'œuvre et des écrits du poète et activiste sicilien Danilo Dolci. Ce second chapitre est consacré à des artistes, des auteurs et des activistes dont les travaux résonnent avec l'œuvre de Dolci. Pour l'occasion, nous avons invité l'auteur Verity Spot, basé à Brighton, l'artiste Lina Issa et les réalisateurs Sylvia Maioni et Grimmé Thompson, basé à Palerme, et l'éditrice Maya Wabadi, basée à Alger, de chacun proposer une demi-heure de lecture, d'interview ou d'œuvre sonore.
Maya Wabadi propose maintenant un parcours sur l'importance de la voix dans l'action politique. Il part de la radio communautaire des luttes, vu à travers des extraits de Frantz Fanon, pour arriver à la situation contemporaine algérienne après plus d'un an de Hirak, des révolutions non violentes.
Chaque matin, dès le lever du jour, je poursuis mes recherches dans le silence, avant de me lancer dans l'action. Ce n'est pas mon programme quotidien, mais celui que Danilo Dolci décrit dans son livre « Inventer le futur ». Il résume parfaitement ce qu'a été sa vie, partagée entre recherche, littérature et engagement. Cette vie que je viens de découvrir m'a tout de suite fait penser à celle de Frantz Fanon. C'est le genre de vie qui m'intimide un peu, le genre de personnalité que j'admire mais auquel je ne peux pas trop m'identifier. Souvent je me dis que ce sont des destins exceptionnels, qu'ils ont vécu à d'autres époques, dans d'autres contextes. Mais depuis le début du Hirak en Algérie, je me pose plus sérieusement des questions sur l'engagement, sur le degré d'engagement, sur les moyens d'engagement. Le 22 février 2019, on s'est d'abord engagé à marcher un vendredi après-midi, pacifiquement. Ensuite, il a été décidé de le faire toutes les semaines. Je dois avouer que je n'ai rien de la marcheuse exemplaire. On ne peut pas dire que je menais les troupes. Je n'ai jamais brandi de pancarte, je ne crie pas assez fort, je ne marche pas assez longtemps. Je ne faisais qu'occuper quelques centimètres du centre-ville, quelques heures par semaine. Je suis lucide, mais je me rappelle que deux ou trois fois, des amis auprès desquels je marchais le vendredi me faisaient remarquer qu'on m'entendait à peine. Les moins délicats m'ordonnaient de crier plus fort. Je ne disais rien, évidemment, mais j'étais dévastée. Ils ne voyaient pas que ce que je faisais représentait un exploit à mes yeux. Crier, chanter, dehors, au milieu de la foule, clairement, ce n'est pas évident pour tout le monde. Petit à petit, j'ai compris l'importance de la voix dans les luttes. C'est vrai, sans voix. On ne peut pas gueuler, on ne peut pas scander les slogans, on ne peut pas plaider notre cause et on ne peut pas créer de radio libre. Depuis que j'ai compris ça, que j'ai fait ces liens, les voix m'obsèdent. D'où cette petite histoire, comme une thérapie. C'est justement Frantz Fanon qui m'a mis sur la piste, avec son livre « L'enceinte de la révolution algérienne » où il consacre un chapitre à la voix de l'Algérie combattante, cette radio créée en 1956 par les soldats du FLN. Fanon décortique dans ce chapitre tous les rapports que les Algériens ont entretenus avec le poste TSF, à commencer par le moment où il était ignoré, boycotté presque par eux. C'était avant le déclenchement de la guerre et la seule chaîne émettant d'Algérie était Radio Alger, une chaîne coloniale qui servait surtout à rappeler que l'Algérie était française.
Avant 1954, tourner le bouton de la radio, c'est donner asile à la parole de l'occupant. C'est permettre au langage du colonisateur de s'infiltrer au cœur même de la maison, dernier des suprêmes bastions de l'esprit national. En 1954, un poste de TSF dans une maison algérienne et la marque d'une européanisation en cours, d'une disponibilité. C'est l'ouverture consciente à l'influence du dominateur, à sa pression. C'est la décision de donner voix à l'occupant. Avoir un poste, c'est accepter d'être assiégé de l'intérieur par le colonisateur. C'est manifester qu'on choisit la collaboration dans le cadre colonial. C'est, à n'en pas douter, rendre les armes à l'occupant.
Les choses ont changé. Déjà avec l'arrivée de Sawt al-Arab, quand les chaînes de radio égyptiennes et tunisiennes ont ouvert leurs ondes aux Algériens en révolution.
L'acquisition d'un poste TSF en Algérie, en 1955, représente l'unique moyen d'obtenir de sources non françaises des nouvelles de la révolution. Cette nécessité revêt un caractère impérieux lorsque le peuple apprend que du Caire, chaque jour, des Algériens dressent le bilan de la lutte de libération. Du Caire, de Syrie, de presque tous les pays arabes refluent ainsi sur l'Algérie les grandes pages écrites dans les djebel par les frères, les parents, les amis.
وعلى يد أبطال جيش التحرير وكل المناضلين الجزائريين يتلقى اليوم ضربات مميتة في الجبال في السهول في المدن والقرى والعواصم ولن تستطيع أي قوة مهما بلغت أن تمنع الشعب الجزائري أن يواصل زحفه المقدس.
Cependant, malgré ces données nouvelles, l'introduction de postes TSF dans les maisons et les douars les plus reculés se fait de façon progressive. On n'assista pas à une véritable secousse, à un afflux énorme de postes récepteurs. C'est à la fin de 1956 que se produit la véritable mutation. En effet, des tracts sont distribués à cette époque qui annoncent l'existence d'une voix de l'Algérie libre. Les heures d'écoute et les longueurs d'onde des émissions sont précisées. Cette voix, qui parle des djebel, non située géographiquement, mais qui porte à toute l'Algérie le message grandiose de la Révolution, acquiert d'emblée une valeur essentielle. En moins de 20 jours, tous les stocks de postes de radio sont enlevés. Dans les souks, le commerce de postes usagés fait son apparition. Les Algériens, apprentis chez les radioélectriciens européens, ouvrent de petits ateliers. De plus, le marchand doit répondre à des besoins originaux. La non-électrification des régions immenses en Algérie pose en effet aux consommateurs des problèmes précis. C'est ainsi que les postes à piles sont, à partir de 1956, les plus demandés sur le territoire algérien. En quelques semaines, plusieurs milliers de postes sont vendus aux Algériens. Postes individuels, postes acquis par des familles, des groupes de maisons, des douars, des machtas.
تخاطب كم من قلب الجزائر هذا هو الشعار تاعنا بالغونيو.
La voix qu'on vient d'entendre est celle de Mustapha Toumi, un des fondateurs de la voix de l'Algérie combattante. Dans cet extrait, il se rappelle la devise de la radio. Ici, la radio de l'Algérie libre et combattante, la voix du Front de Libération s'adresse à vous, du cœur de l'Algérie. Et cette voix s'adressait à eux dès le départ en quatre langues. En arabe classique, en algérien, en tamazir et en français.
Avec la création d'une voix de l'Algérie indépendante, l'Algérien se trouve dans l'obligation vitale d'écouter le message, de l'assimiler et bientôt de l'assumer. Acheter un poste, se mettre à genoux, la tête contre l'écran, ce n'est déjà plus vouloir de l'information. Au niveau de la formidable expérience qui se déroule dans le pays, c'est ouïr les premières paroles de la nation. Puisque la nouvelle Algérie En Marche décide de se raconter et de dire, le poste de TSF devient indispensable. C'est lui qui permet à la voix de s'enraciner dans les villages et sur les collines. Avoir un poste de TSF, c'est solennellement entrer en guerre. À l'aide de la radio, technique instrumentale rejetée avant 1954, le peuple algérien décide la relance de la révolution. À l'écoute de la révolution, l'Algérien existe avec elle, la fait exister.
Évidemment, très vite, l'armée française a réagi en cryptant les fréquences utilisées. Mais c'était sans compter sur l'ingéniosité, la débrouille et surtout la motivation des auditeurs qui tenaient coûte que coûte à entendre la voix de l'Algérie combattante.
Les services français, technicisés à l'extrême et forts de l'expérience acquise à l'occasion des guerres modernes, rompus à la pratique de la guerre des ondes, eurent tout fait de repérer les longueurs d'onde du poste émetteur. Les programmes furent alors systématiquement brouillés et progressivement, la voix de l'Algérie combattante devint inaudible. Une nouvelle forme de lutte était née. Des tracts conseillèrent aux Algériens de se tenir à l'écoute de façon permanente 2 ou 3 heures durant. Au cours d'une même émission, un deuxième poste émettant sur une autre longueur d'onde relayait le premier poste brouillé. L'auditeur était incorporé à la bataille des ondes, devinait la tactique de l'ennemi et de façon presque physique, musculaire, déjouait la stratégie de l'adversaire. Très souvent, seul l'opérateur, l'oreille collée contre l'appareil, avait la chance inespérée d'entendre la voix. Les autres Algériens présents dans la salle reçoivent l'écho de cette voix par les chuchotements de l'interprète privilégié qui, dès la fin de l'émission, est littéralement assiégé. Des questions précises sont alors posées à cette voix incarnée. L'assistante désire se renseigner sur telle bataille signalée par la presse française des dernières 24 heures et l'interprète, gêné, lourde de culpabilité, avoue quelquefois que la voix n'en a pas fait mention. Mais d'un commun accord, après un échange de vues, il est arrêté que la voix s'est parfaitement prononcée sur ces événements, mais que l'interprète n'a pas saisi les renseignements diffusés. Un véritable travail d'élaboration est alors mis en chantier. Tout le monde y collabore et les batailles d'hier et d'avant-hier sont reconstituées selon les vœux profonds et la croyance inébranlable du groupe. L'auditeur pâlit le caractère fragmentaire des nouvelles par une création autonome de l'information. Malentendu, couverte par un brouillage incessant, obligée de se déplacer deux ou trois fois sur les ondes au cours d'une même émission, la voix de l'Algérie combattante n'est presque jamais entendue de façon suivie. C'est une voix hachée, discontinue. D'un village à l'autre, d'un gourbi à un autre gourbi, la voix de l'Algérie dit des choses nouvelles, relate des batailles de plus en plus glorieuses, dessine en clair l'effondrement de la puissance occupante. L'ennemi perd de sa densité et, au niveau de la conscience de l'occupé, amorce une série de chutes essentielles. Cette voix de l'Algérie qui, pendant plusieurs mois, va vivre traquée par les réseaux puissants de brouillage de l'adversaire, cette parole, quoique souvent inaudible, alimente la foi du citoyen dans la révolution.
Je trouve ça fou le pouvoir de cette voix, qui par sa simple existence a tout changé pour les Algériens. En même temps, le principal enjeu à l'époque, c'était ça. Faire exister un pays, un peuple, un combat dont on ne parlait jamais. La radio y a beaucoup participé. Mais aussi, et en même temps, la troupe artistique du FLN, ou des artistes comme Kate Biassine, Mohamed Zinet ou encore Mustapha Toumi, que l'on a écouté tout à l'heure, entre autres, ont monté et joué des pièces et des spectacles qui parlaient des Algériens, qui dénonçaient la violence de la colonisation et qui contraient les récits dominants. Ces artistes ont continué pour certains à militer après l'indépendance, Kate Biassine notamment, en se consacrant, dès les années 70, à un théâtre populaire et satirique, joué en arabe dialectal, auprès d'un public composé d'ouvriers, de paysans et d'étudiants. Il a aussi beaucoup lutté pour la reconnaissance de la langue tamazir, qu'il a apprise. Il a d'ailleurs participé à la traduction de certains de ses textes, qui ont été et qui continuent à être joués aujourd'hui. Extrait de la pièce « La guerre de 2000 ans », écrite par Kate Biassine et jouée par la coopérative théâtrale de la ville de Tizi Ouzou en 2012. Ça aussi, c'est assez fou. Une radio émettant en quatre langues en 56, Kate Biassine écrivant en trois langues. Difficile à imaginer aujourd'hui où les passions se déchaînent encore sur les questions linguistiques et où les débats littéraires, par exemple, se réduisent encore des fois à des confrontations de langues. Je ne veux pas fantasmer sur le passé multilingue de l'Algérie. Les choses devaient être bien compliquées à l'époque aussi. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que ces questionnements sur la langue continuent de se poser aux écrivains algériens, tout comme d'ailleurs le désir ou le besoin de s'engager, souvent au-delà de l'écriture de fiction. j'ai voulu parler de ça avec une amie écrivaine, Rajal Bali. Elle ne parle pas beaucoup plus fort que moi, mais elle s'exprime et s'active depuis des années sur tous les fronts. En plus d'avoir écrit du théâtre, des nouvelles et un roman, elle a fondé avec des amis l'association Chrysalide en 2000. Cette association a créé un ciné-club, monté des pièces de théâtre et produit des films, entre autres. Quand je lui ai dit que je voulais la voir pour parler de son engagement, elle n'était pas convaincue. Elle n'avait pas l'impression de l'être assez engagée. Pourtant, depuis le début du mouvement populaire, elle cherche les moyens de faire plus, d'agir au-delà des manifestations hebdomadaires. Elle a peut-être trouvé, puisqu'elle crée en ce moment même un podcast de conversation avec des personnalités dont elle souhaite partager la pensée et les idées, donner à entendre leur voix, nouvelle, dans l'Algérie d'aujourd'hui. Il y a quelques mois, elle s'était déjà engagée dans le réseau de lutte contre la répression et pour la libération des détenus. J'ai commencé par lui demander ce qui l'a poussée à y adhérer.
Ça a été déclenché par l'assassinat, la mort de Kamel Din Fakhar, qui m'avait beaucoup bouleversée. Et je cherchais comme une folle quoi faire, faire quelque chose. C'est pas possible que ça passe sous silence. Et j'ai entendu parler de la création d'un réseau de lutte contre la répression et pour la liberté, la libération des détenus. J'ai voulu m'y engager. Voilà. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans le réseau. Et voilà, je me suis occupée de la partie écriture, bien sûr, écriture des communiqués, etc. Et puis recensement de toutes les arrestations. J'étais pas la seule, bien sûr, à faire ça. On était tout un groupe. Il y avait aussi des avocats qui se sont engagés spontanément. Et même comme ça, au bout d'un moment, j'avais l'impression que ça tournait un peu en rond, que qu'on servait à rien. C'est-à-dire qu'on était là à donner les listes des détenus, mais j'avais pas l'impression de servir à grand-chose. Que c'était peut-être trop orgueilleux de ma part de penser que je pouvais être agissante tout de suite, sachant que c'était pas encore le moment, quoi, qu'il y avait peut-être autre chose à faire. Et c'est pour ça que je reviens encore à cette idée de podcast. Mon envie, c'est de dire, écoutez, si on veut construire l'Algérie de demain, comment on va la construire? Quels sont les rêves? Quels sont les désirs qu'on peut mettre, qu'on peut commencer dès à présent à mettre en forme? Ça va, j'espère que je n'aurai pas ce sentiment, mais j'aurai peut-être à un moment donné encore le sentiment que ça ne sert à rien et qu'il faut encore faire autre chose, je ne sais pas. Je ne suis pas dans le frontal, c'est-à-dire dans l'engagement, c'est-à-dire dans les luttes, par exemple syndicales, ou même si je trouve ça franchement admirable, mais je n'en suis pas capable. Je ne suis pas capable d'aller frontalement dans un combat. Et je crois plus aux petites choses qui s'additionnent, qui font des plus et des plus et des plus, et qui vont peut-être nous amener à nous transformer nous-mêmes et à transformer un peu, on va dire, à contaminer un peu notre entourage. C'est comme ça que je vois maintenant mon engagement. Au départ, je crois que j'ai eu une idée fausse en pensant que faire ce qu'on faisait allait, je sais pas par quel miracle, faire fléchir les autorités, les faire réfléchir à cette folie dans laquelle elle s'était engagée, quoi.
Il y a un an, elle est allée à la grande réunion des féministes algériennes à Oran. Je me rappelle qu'elle m'avait prévenue de son départ la veille de la réunion. Ça s'était fait très vite. Alors je lui ai redemandé qu'est-ce qu'il avait décidé à y aller.
Alors honnêtement, au départ, j'avais envie de partir à Oran, de découvrir encore le Hirak d'Oran, de voir les gens, comment ils vivaient. Et ça tombait bien, puisque s'il y avait cette grande réunion de féministes, c'était aussi l'occasion. Je les ai connues, j'ai connu certaines d'entre elles il y a longtemps, dans les années 80, avec présence de femmes et avec les mouvements féministes de l'époque. Je voulais savoir à quel où ça en était aujourd'hui, quoi. J'étais un peu observateur extérieur, puisque je venais au nom du réseau, pour rendre compte de... Il y avait des arrestations de femmes déjà qui s'étaient faites. et pour demander aux féministes donc de se solidariser avec elles. Et donc ça m'a permis en même temps de regarder les choses un peu de l'extérieur, quoi, et d'être et de voir à quel point, justement, encore une fois, je reviens à ces voix qui ne sont pas dans la ligne directe, qui sont un peu déviantes par rapport à ce qu'on veut, ou ce que le penser, le prêt-à-penser, on va dire. Toutes ces voix-là, comment elles ont du mal à être entendues. Franchement, en même temps, j'ai rencontré des jeunes femmes fantastiques, quoi, vraiment, d'une force et d'une liberté. Il y a celles qui sont plus dans les luttes vers du côté légal, c'est-à-dire de faire adopter des lois, pour de faire si tu veux, d'aller par la voie légale, c'est-à-dire intervenir au niveau des assemblées, des communes. Il y a celles qui demandent plus de représentativité, par exemple des femmes, etc. Et il y a aussi la voie par l'écriture, hein. Il y a eu des revues, il y en a encore, je crois, maintenant. Il y a aussi la restitution de ce qu'on pourrait appeler maintenant l'histoire des héroïnes du pays qui ont été niées, sans parler aussi du soutien éducatif dans les campagnes, etc. Là, il y a beaucoup de féministes qui se sont données vraiment, qui sont allées partout dans le pays pour, conscientiser, mais on va dire pour permettre aux femmes de connaître les lois, de connaître les textes qui les contraignent, qui les amènent aux situations qu'elles vivent. Et je pense que même dans le travail, il y a même eu des tentatives dans le domaine éducatif, si tu veux, d'aller créer des petites écoles, des petites formations comme ça, un peu partout, au Sahara et tout ça. Comme je t'ai dit, c'est vraiment à long terme, mais très très long, très très long. J'ai rencontré des toutes jeunes femmes qui allaient à Sihassim Saoud, qui allaient à Ouergla, qui allaient dans les petites contrées, qui Igorojo, si tu veux, pour permettre une auto-organisation des femmes et des militantes. Être présente partout et faire entendre ses voix dans les conférences, dans les assemblées, dans les syndicats.
Et dans la rue, comme le 8 mars 2020. Ce jour-là, c'était un dimanche. On était sortis des clous, des jours de manif habituels. Il y avait beaucoup de monde et on a pu aller au bout. Mais un an plus tôt, quand les militantes féministes d'Alger ont décidé de se réunir en carré, devant la fac centrale, en début de chaque manifestation, en reprenant les slogans du Hirak et aussi ceux réclamant une égalité entre femmes et hommes, là, c'était une autre histoire. Très vite, on leur a reproché, arguant de façon violente parfois, que ce n'était pas le moment, qu'il ne fallait pas risquer de diviser un mouvement qui tient tant à son pacifisme, sa silmille. Après des premières semaines tendues, le carré féministe s'est tout de même maintenu, et il représente un des groupes les plus engagés et les plus organisés du mouvement aujourd'hui.
Par exemple, on a eu tout un débat autour de cette question du carré féministe, oui ou non, est-ce qu'il faut le maintenir ou non, et celles qui ont défendu l'idée de le maintenir savaient très bien à quoi elles s'en tenaient, elles savaient très bien ce qu'elles risquaient. Si tu veux, il y a cette idée chez certaines que pour faire avancer une idée, il faut aller vers la provocation. On n'est pas allé à la violence, bien sûr, mais on a peut-être un peu parfois appelé des réactions violentes parce que c'était le seul moyen. Puis on est obligé parfois de, si tu veux, de faire un pas comme ça, un peu violent, un peu radical, pour que l'idée, comme j'aime bien le dire, que l'idée au moins pénètre les esprits.
Je connais Ajal Bali depuis longtemps. Elle est plus âgée que moi. Alors souvent, je lui pose des questions sur comment c'était avant. Surtout en 88, l'année de ma naissance, et celle des événements d'octobre. Avant de la quitter, je lui ai donc demandé s'il y avait eu de nouvelles radios libres à l'époque. Est-ce qu'elle écoutait, elle, en 1989, en 90?
Il y a eu une radio avec, comment il s'appelle, Halalou, avec... je crois que c'était surtout avec Halalou. Je l'écoutais d'ailleurs régulièrement. À la chaîne 3, il y avait de belles émissions, de débats aussi. Aussi, une émission un peu satirique, tu vois, où on riait beaucoup de nous et de ce qui arrivait. Et en même temps, c'est pas bête, quoi. C'était super, super intéressant.
L'émission satirique s'appelait Sans pitié. Mohamed Ali Al-Lalou l'a lancée juste après les événements du 5 octobre 88 sur la chaîne d'État francophone Alger Chaîne 3. Il y a imposé la langue algérienne, notamment avec une chronique intitulée Louratouna, notre langue. Et il a lancé de nombreux musiciens engagés, comme Baziz et Mohka G2. Cette émission a été une parenthèse libre et enchantée dans l'histoire de la radio publique. Une parenthèse bien refermée depuis.
Ok, à vous. KG2, Bob Dainan.
Écoute, si ma fille sans pitié, nous sommes ensemble jusqu'à 19h.
Attendez le micro.
واحد نهار كنت عيان تحت كاوتش راني منام نمت تزاير قاعد تشوان على راسو ما حد يدوان بكراش رجعت في لابيان تحيا دولة وتشوان.
La première fois que j'ai vraiment écouté la voix d'Alelou avant ce podcast, c'était cet été, et c'était sur Radio Corona International. Ça ne pouvait être que là.
Bienvenue à vous, chers survivants de l'apocalypse, chers résilients de la République algérienne démocratique et populaire. Bienvenue à vous sur Radio Corona International, la radio algérienne de la fin du monde, de la fin d'un monde, et de la fin de leur monde et le début, inchallah, d'une Algérie apaisée, en phase et en accord avec son histoire, ses vieux démons et ses cadavres enfouis.
La nécessité de faire autre chose, de faire plus, comme l'a dit Ajal Bali, on l'a un peu tous ressenti au bout d'un an et demi de manifestation. Mais c'est comme s'il avait fallu être complètement bloqué par la pandémie pour pouvoir réfléchir vite et pour que l'évidence nous saute aux yeux. J'imagine que c'est comme ça que ça s'est passé dans la tête de Abdallah Benadouda quand il a décidé de créer Radio Corona. C'était en mars dernier. Il était confiné aux États-Unis et il voyait les marches suspendues en Algérie. Il a créé la radio contre la déprime, le dégoûtage comme il dit. Mais c'est devenu la radio contre l'inaction, contre l'impuissance. Lui et ses chroniqueurs, de plus en plus nombreux, s'activent depuis des mois avec leur voix. Eux aussi, en plusieurs langues, ils disent ce qu'ils pensent, sur la politique, sur la culture, et dans un nouvel espace, libre. Il y a eu une telle énergie dans le lancement de RCI, dans son évolution, que ça a fait du bien à tout le monde, j'ai l'impression, même aux simples auditeurs. Et ça a fini aussi par donner envie à d'autres de se lancer, comme à l'équipe de Kilmetna, Notre Parole, un podcast féministe qui compte déjà une demi-douzaine de numéros.
Bonsoir alaikum, Zulf Lekhond. Bonsoir alaikum, marhaba bikoum ma'ana fi Kilmetna. Kilmetna hiya moubadara. Émission, podcast, radio, mais elle n'a pas exactement ce qu'elle est là. Elle n'a pas de blé, il y a mon badala, mais elle n'a pas de nsa ou l'ensa. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas l'actualité. Kilmetna jette deux constats. Le premier, mais qu'est-ce qu'une place le kilmet nsa? Le deuxième, selon certains, mais j'ai wakt le kilmet nsa. Le fameux, ce n'est pas le moment. Donc, décidez-na, blé, j'ai wakt, je ne sais pas kilmetna.
Voilà. Décider de prendre la parole, décider de faire quelque chose, c'est là où j'en suis. Le désir se fait de plus en plus impérieux pour beaucoup. Et celui qui a le mieux exprimé cet impératif qui nous tombe dessus des fois, c'est peut-être le rappeur Rabah Dankichot, membre du groupe MBS. lui qui, avec sa voix imposante, chante le besoin de, littéralement, vomir une parole.
والخوف معك اللي بنسموه مكشيك وريسير كل ما تقدم الهضره لازم نخرج خير نتعذب مع الكلمه جبدها من قاع البير نكرهكم من قلبي كيما نكره بليس لا مافيا بوليتيك تاني تيرورست اللي شعلوا الحاله خوتك لي زيسلاميست سراقين مرسونار وسرافيرست ما على باليش نتوما انا راكم فلاديست واش راهم يستناو باش يمسحوهم عسونا على الشعب ولا سلحوهم وعلى خلونا باش نخلوهم بالك فوطو ايه اللي قتلوهم قول لي شكون فيكم اللي خدعوهم نفروها وما كملوهم نحوهم كرهنا من الموت عم بالكم عايشين ولا احنا ناقود يذبحوا في الغاشي ويقولوا طاغوت لازم نتقي هضره تبعتهم لي للدار لازم نتقي هضره ويبوجي كالجنرال لازم نتقي هضره تركب لهم الخلايا لازم هاد الكاسيطه فطن كاش بنادم ضايع لازم نتقي هضره تبعتهم لي للدار لازم نتقي هضره ويبوجي كالجنرال لازم نتقي هضره تركب لهم الخلايا لازم هاد الكاسيطه تركي كاش بنادم ضايع هضرنا على التيروريزم مازال ما في الغفوات طاس ورخاص اللي سرحوا لهم.